France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christian Ivaldi, je suis né le 2 septembre 1938, je suis pianiste, je suis enseignant et aussi mélomane et amateur d'art.
Tout ce parcours, Christian Ivaldi, avec des grands professeurs, des premières rencontres importantes, et puis vous avez eu des formations qui sont restées à la fois duo, trio, quatuor.
Oui, tout à fait. Donc,
on pourrait en parler ensemble si vous le voulez bien. Peut-être commencer par votre instrument, le piano, le clavier partagé, c'est pas rien, le quatre mains, il y a le deux pianos aussi, et vous nous parlerez peut-être des différences de ces deux répertoires, mais le quatre mains déjà, quand on est sur le même tabouret.
J'ai toujours aimé, c'est une littérature magnifique, alors à l'époque où j'ai commencé, il fallait encore convaincre et les organisateurs et le public, parce que pour certains, le quatre mains, c'était, oui, c'est sympa, on déchiffre des symphonies de Beethoven, mais je crois que le public, à part l'emblématique fantaisie de Schubert, connaissait absolument rien au répertoire. C'est vraiment un répertoire exceptionnel, exceptionnel. Et techniquement et psychologiquement, il y a une grande différence, évidemment, entre le deux pianos et le quatre mains. Et d'ailleurs, j'ai évalué ça quand j'avais ma classe de musique de chambre, quand deux pianistes arrivaient en me disant « on voudrait travailler ensemble ». Ah bon, et eux, c'était les suites de Rachmaninoff en priorité. Si je leur parlais d'un Schubert à quatre mains, je voyais que c'était bon. Ils n'avaient pas envie de partager. Mais le quatre mains, pour moi, c'est ce que j'aime, entre autres, c'est l'abolition du narcissisme du pianiste. C'est clair. C'est un ersatz de quatuor à cordes pour nous, parce que c'est évident que si j'avais joué d'un instrument à cordes, j'aurais été dans un quatuor. Ça, c'est évident, ma nature m'aurait porté vers ça. Et à quatre mains, on n'est jamais dans la position où on voudrait être. On est obligé de mettre la pédale pour les deux. À deux pianos, on a son clavier. Il y a la connivence des pianistes, mais enfin, on a son clavier, on n'a pas à rendre de compte, on met la pédale comme on veut, etc. Oui,
Et puis on se voit.
Et on se voit, à quatre mains, on se voit encore plus.
Enfin, on se sent plus qu'on ne se voit.
Oui, moi j'aime bien regarder les mains pour les questions d'ensemble, pour la verticalité, c'est important. Alors ça a été d'abord avec Bernard Maher, et puis j'ai rencontré Noël Lee au début des années 70. On a commencé à travailler ensemble, et surtout ce qui a été un déclencheur, c'est l'intégrale Schubert qu'on avait faite, qui n'était pas d'ailleurs une véritable intégrale en fait, mais enfin bref. Et ça a été un gros succès à l'époque, et du coup ça a déterminé une équipe de deux pianistes, Noël et moi, qui étaient des pianistes assez différents. Noël était quelqu'un qui était un peu toujours dans l'urgence, qui me remuait un peu. Moi, j'étais plutôt en observation, je n'ai pas un tempérament de feu, j'étais plutôt un peu analytique. Plus introverti, et Noël était tout le temps dans une espèce d'impatience, comme ça, d'urgence, et ça me faisait du bien, ça me bousculait. Noël a eu un profil plus complet que le mien, il jouait beaucoup seul. En fait, il est arrivé à Paris en 48 pour travailler la composition avec Nadia Boulanger. Il est resté 6 mois, et puis il a adoré Paris, il a aimé la vie en France, et il a décidé d'y faire sa vie. Et ça s'est passé comme ça. Et comme, il fallait qu'il gagne sa vie, il n'avait pas spécialement d'argent, il a commencé à jouer, il était pianiste, et puis les choses sont allées assez vite pour lui. Oui. et on a beaucoup joué ensemble. Et puis beaucoup plus tard, j'ai retrouvé Jean-Claude Pentier, que je connaissais depuis le conservatoire. On a été, je crois, associés la première fois à un week-end de la Baule pour René Martin, où on a joué la fantaisie de Schubert. Et en fait, quand j'entendais Jean-Claude les années précédentes, soit à la Rock d'Anthéron, soit dans d'autres concerts, ou au concert du dimanche matin de Janine Rose, je l'entendais avec des pianistes remarquables, et je me disais toujours, pas très modestement, il me semble qu'avec moi, ça marcherait mieux.
Et pourquoi vous vous disiez ça? Qu'est-ce que vous sentiez?
Parce
qu'est-ce
que je sentais, c'est quand même très intime, Alcatman. Vous pouvez être avec un pianiste magnifique et ne pas arriver à jouer. Enfin, c'est très, très personnel. Et effectivement, avec Jean-Claude, il s'était passé quelque chose et on a commencé à faire beaucoup de concerts ensemble. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai envie qu'on fasse une chose, qu'on fasse une intégrale des Catman Schubert. Et Schubert, c'est 7 heures de musique à 4 mains. C'est vraiment le dieu du 4 mains, c'est-à-dire des choses qu'on n'entend pas souvent. Il y a très peu de partitions inintéressantes, hein, vraiment. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre, il y a des partitions de qualité, enfin bon, voilà. Et donc, on s'est embarqué là-bas. Moi, ça a été une formidable aventure. Et je crois qu'il a eu du plaisir aussi. Enfin, on j'aimais la qualité de notre travail. Et on a fait cette intégrale d'abord à Paris, à la salle Cortot, et l'année suivante à la Rock d'Anthéron. Et ça, c'est un de mes, vraiment de mes beaux souvenirs d'activité.
Avec Noël Lee, il y a eu Schubert, mais il y a aussi eu la musique américaine, les Brahms.
On a enregistré beaucoup de choses, voilà, oui, mais parce que ces Schubert ont vraiment été un succès. Il y a encore des gens que je rencontre qui me disent « Ah, oh, vous savez, mon enfance a été bercée par vos 4 mains de Schubert ». C'est incroyable, c'est venu en même temps que la sortie du livre sur Schubert de Jean et Brigitte Massin. Il y a eu une espèce de correspondance et on a commencé à nous inviter dans les FNAC pour des forums ou des choses comme ça. Et ça a été en tête des ventes classiques pendant 6 mois, je crois. Enfin.
Et dans ce répertoire pour 4 mains, il y a Ravel aussi, il y a les danses hongroises, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Qu'est-ce que vous avez peut-être découvert ou est-ce que vos mains, en tout cas, ont eu le plus de naturel ou de plaisir à jouer en dehors de ce grand voyage schubertien que vous avez fait plusieurs fois?
Beaucoup de choses. Le Brahms, c'est magnifique. Il y a un compositeur que j'aime infiniment de plus en plus, c'est Dvorak. Il y a des très belles choses de Dvorak. Il y a une suite qui s'appelle Scène de forêt de Bohème que personne ne connaît, mais qui est vraiment de la musique très inventive. Oh, écoutez, tellement de choses, tellement de
Mozart
choses.
Mozart aussi.
Mozart, bien sûr, oui. Et Mozart, j'ai fait une expérience intéressante récemment. Je suis chaque année j'enseigne et je joue aux écoles d'art américaines à Fontainebleau. Et j'y ai connu Robert Levin. On nous avait associé pour une fantaisie de Schubert il y a 2 ans qui s'était vraiment bien passé. J'ai adoré travailler avec ce personnage. Et l'été dernier, je lui avais proposé de faire la grande sonate de Mozart à 4 mains en fin majeur et il a accepté. Et là où j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, oui. Et si on remonte en arrière, il y a quelqu'un qui joue beaucoup de choses, c'est Janine Rose.
Oui, dans les producteurs, j'y pensais, c'est des, oui. voilà une personne qui a mouillé ses manches et qui a osé
Janine,
des répertoires.
Bon, Janine, vous connaissez sûrement son parcours, elle travaillait avec Barbara beaucoup. Et puis elle a décidé de sauter comme on plonge dans l'eau froide, dans le classique dont elle ne savait rien de son propre avis, elle connaissait personne. Et comme c'est une bosseuse incroyable, bon, elle a commencé, elle a eu une petite agence de concert dont je faisais partie, il y avait Portal, il y avait Pelletier, il y avait Krivine, alors j'ai connu Emmanuel Krivine par elle.
Violoniste, à cette époque-là.
Absolument, et les 2 disques qu'il a fait, on a joué pendant 5-6 ans ensemble, beaucoup, les 2 disques qu'il a fait comme violoniste avec moi, je suis assez fier d'ailleurs. Et Janine a créé les concerts du dimanche matin, et Janine a été très fidèle, et puis, alors, longtemps après, ça a été quelqu'un qui avait aussi un profil très atypique dans le métier, René Martin, bien sûr, à qui nous devons tous, pour ceux à qui il est fidèle comme il est capable de l'être, évidemment beaucoup de choses. des folles journées, le festival de la rock d'Anthéron, avec cet enthousiasme qu'il a. Pas l'ombre d'un snobisme. Aucun des deux, ni Janine ni René, ne sont des gens snobs. Enfin, quand Janine est arrivée, il faut voir que c'était, on était encore sous le, j'allais dire, le poids, l'activité des grands bureaux de concert traditionnels. Et Janine a vraiment apporté quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, je me souviens que, des agents que je connaissais s'étranglaient un peu en parlant de cette femme qui arrivait, dont on ne savait rien. Je me sentais un peu menacé, peut-être par un fonctionnement tellement différent.
Mais elle avait sans doute une liberté de ne pas être du sérail aussi.
Oui, probablement.
France Musique, les grands entretiens de Christian Ivaldi.
Et est-ce que quand on est à quatre mains avec ces affinités électives qu'on entend, c'est aussi un terrain privilégié pour improviser?
Au fond, l'improvisation, alors ça a été lié au masque et la plume, hein, qui est... Quand je créais les premières œuvres d'Oana, il y avait toujours une sitar dans les, c'était une femme qui s'appelait Monique Rollin, qui avait la mainmise là-dessus, et avec qui je travaillais donc régulièrement, enregistré aussi ensemble. Et moi, j'ai commencé à travailler à la radio très tôt, avant même que la maison existe. On avait des lieux divers dans Paris, à droite et à gauche, où il y avait des studios d'enregistrement. Et puis est arrivée la maison de la radio. Et François-Régis Bastide a dit à Monique Rollin, Monique, je suis désolé, mais on va être à la radio au 104. Il me semble que la sitar, c'est un peu mince, peut-être. Est-ce que... Puis il adorait le piano, il adorait le Bastide. Et comme on travaillait ensemble, Monique lui a dit, bah, écoute, je sais que Christian, il va le dire, improvise volontiers, pourquoi pas, demandez-lui, voilà. Et donc j'ai commencé à être associé à cette émission en 65 que j'ai faite pendant pratiquement 10 ans. Et quand même, en repensant à tout ça, je me rends compte que j'ai vécu une époque extraordinaire. J'ai connu tous ces grands critiques, puis je voyais défiler des acteurs, des metteurs en scène qui venaient parler de leurs films ou des acteurs de leur rôle de théâtre. Ça a été une belle période.
Mais vous qui êtes fan de tout ça, c'était pas mal. Ça fusionnait
bien
beaucoup
sûr.
D'amour.
Mais je me payais des tracts épouvantables parce que oui, ils étaient sur scène en rang d'oignon. Moi, j'étais le piano, était côté jardin. Quelquefois, ils parlaient d'un film et je préparais dans ma tête quelque chose. Et puis, Bastide passait à autre chose. J'étais pris de court. Alors après, je somnolais vaguement. Et puis, il me regardait comme ça en me disant « Christian, j'avais vraiment des tracts terribles. »
Bonsoir chers spectateurs du Théâtre 104, bonsoir chers auditeurs de France Inter, voici ce soir une émission consacrée au livre, c'est Le Masque et la Plume. Avec Christian Ivaldi au clavecin et au piano, et nous allons continuer, si vous le voulez bien, et peut-être qu'il y aura des questions du public. Je vais demander à Christian Ivaldi de nous permettre de reprendre un peu notre souffle.
Les formations, Christian Ivaldi, il y a le quatuor Ivaldi. Est-ce que lorsque c'est les années 80 ?
C'est le début des années 80, oui.
C'est ça.
Oui.
Et à ce moment-là, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est une formation, parce que c'est pas piano, violon, alto, violoncelle. C'est
oui,
pas non plus la formation.
Oui. Le répertoire est beau, hein. Il n'est pas inépuisable, mais il y a quand même un répertoire très solide, beau. On se connaissait tous, il y avait Sylvie Gazot aussi dont j'ai pas parlé, qui était une violoniste épatante et une très bonne musicienne. Et je ne sais plus, effectivement, Cossé et Meunier se connaissaient très bien aussi. Donc on a décidé de faire ça. Moi, je crois qu'il appelait le quatuor Ivaldi était une erreur. Ce sont les conjoints qui ont décidé ça. Moi, je n'ai pas dit mon mot là-dessus. Et on a commencé à jouer pas mal, en effet. On a fait un disque qui est pas sorti en CD d'ailleurs. Strauss, Mahler, mais en fait je crois qu'on avait tous trop d'activités diverses et bon, ça s'est délité, puis on a eu de moins en moins de temps pour accepter donc ça a duré, je sais pas, 4-5 ans à peu près.
Et le trio Europa ?
Alors, le trio Europa, en effet, ça a été plus tard. Ça, c'est avec Meunier aussi et Pavel Vernikov, qui est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans beaucoup de festivals à droite et à gauche. Et on a, en effet, joué ensemble pendant assez longtemps. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 80, bon, d'abord, il y avait énormément de festivals de musique de chambre auxquels je participais parce qu'on connaissait un peu mon profil, on savait mon goût pour ça. Prades en France, évidemment, régulièrement, mais aussi à l'étranger, surtout en Finlande. Les Finlandais sont un public extraordinaire. Festival de Kumo, festival de Vasa. Et c'était épuisant, d'ailleurs très très lourd, parce que quand on restait 2 semaines, là, on travaillait comme des fous, il y avait aussi de l'enseignement à dispenser. Mais bon, j'ai adoré ça, je suis allé à Newport aussi 2-3 fois aux États-Unis. Donc j'ai rencontré Pavel, et au même concert, c'était le premier concert à Kumo, je crois, j'ai fait la connaissance de quelqu'un que j'aime infiniment, et avec qui j'ai beaucoup joué, qui est l'altiste allemande de Tabea Zimmermann. On est resté très liés, d'ailleurs, on joue plus ensemble, mais elle est très fidèle quand elle vient jouer à Paris, elle m'appelle, on déjeune si elle a le temps. C'est un personnage magnifique.
Et cette voix d'alto aussi est très émouvante.
Ah, je joue, chaque fois que je l'entends, je me dis, mais c'est encore plus beau que la dernière fois. Enfin, c'est exceptionnel. Oui, oui, vraiment. Et puis, au début des années 80 aussi, dans cette même période, j'ai quand même décidé, avec le soutien de Jeannine Ross, chez qui j'étais, d'essayer quand même de faire des récitals. Il m'arrivait de faire des concertos, hein, épisodiquement, Mozart, j'ai même joué le deuxième de Beethoven. C'est pas ce que je faisais le mieux, honnêtement, j'étais pas fait pour ça, bon. Mais j'ai quand même décidé de faire un peu de récital, j'ai dû en faire 15 à l'époque. C'était pas déshonorant, mais enfin bon, c'est pas mon truc, c'est pas mon profil. J'ai eu l'occasion dans divers contextes de jouer seul, même d'enregistrer aussi des choses seules quelquefois, mais bon, mon profil, c'est vraiment la musique de chambre, le partage, quoi.
Et c'est drôle, ce besoin que vous avez comme ça, à un moment, à quoi, une quarantaine d'années, de vous mesurer à vous-même d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai, c'était un défi. J'avais beaucoup moins le trac en récital qu'en concerto. En concerto, j'avais du mal, là, curieusement, à garder la concentration, cette espèce de foisonnement d'orchestre autour de moi, un solo de hautbois, de violoncelle. Beaucoup de mal, je me souviens, à garder la concentration, c'est curieux. Alors qu'en récital, bon, voilà, on a de compte à rendre à personne, on est vraiment seul. Je l'ai fait sans déplaisir, mais pour le défi, pour savoir que j'étais capable éventuellement de le faire.
Si on pense concentration, Christian Ivaldi, la préparation est tout à fait différente aussi. J'imagine que quand on arrive pour un récital en solo ou quand on arrive pour un concert de musique de chambre, pas le même stress, pas le même trac.
Vous avez absolument raison. Je peux vous dire que quand j'accompagnais un voyage d'hiver ou une séance de leader ou de mélodie, je prends le temps d'aller au musée. Les jours de récital, je sais que je le faisais pas.
Aux instrumentistes avant de penser et de parler des chanteurs et de passer peut-être à cette voix humaine que vous aimez tant, Christian Ivaldi, si on pense aux instrumentistes, il y a eu ces relations privilégiées qui ont duré et durent encore avec des instrumentistes. Il y a ceux aussi avec lesquels vous avez joué peut-être de façon plus épisodique. Dans tout cela, ceux dont vous pouvez vous souvenir, moi évidemment, quand je lis que vous avez joué avec Christian Ferras, je suis...
Une fois, ça a été un concert. faire dans les années 60, en effet. Oui, malheureusement, c'était un concert où il y avait peu de monde dans la salle et je crois que ça le motivait pas beaucoup. Et je pense qu'il a pas eu on s'est pas retrouvé après. Je crois que c'est son partenaire Pierre Barbizet qui lui avait parlé de moi parce que Pierre était pas libre pour ce concert-là. Et ça s'est arrivé une seule fois, oui. J'ai travaillé davantage avec Rostropovitch.
Oui.
5-6 fois, à peu près, oui. Oui,
Salvatore Accardo aussi.
Accardo, ça c'est un souvenir merveilleux. Ce sont les semaines de musique de chambre de Naples, au début des années 70. Mon copain Meunier, qui jouait beaucoup en Italie, m'a associé à cet événement auquel il participait. Et Accardo, en effet, dirigeait plus ou moins ces semaines de musique de chambre. Et ça, c'était merveilleux. C'était très intense. On rodait le programme, on travaillait le programme le matin et on jouait le soir même. Vous voyez, alors je vous dis pas que c'était des interprétations toujours impeccables, loin de là, mais il se passait toujours quelque chose musicalement. Au début, on était plus nombreux sur scène que dans la salle. Et puis l'année suivante, Martha Argerich est venue, elle avait entendu parler de l'événement. J'ai même fait un Schubert avec elle, d'ailleurs, improvisé un peu aussi. On l'a déchiffré à 18h, on l'a joué à 20h30. Mais c'était tellement extraordinaire. Et j'ai découvert des merveilles de répertoire de cordes, les quintettes, les secteurs de Brahms, le quintet à deux violoncelles de Schubert, des quatuors à cordes, le souvenir de Florence, de Tchaïkovski, la du Transfiguré de Schoenberg. Enfin, toutes ces œuvres étaient jouées, j'ai ces découvertes-là, et ça a été un choc musical de plus, oui.
Ces partenaires d'élection que vous avez pu avoir, que vous avez rencontrés, que ce soit un soir ou que ce soit plusieurs, Christian Vivaldi, il y a aussi des noms, Julius Ketchen, Joseph Souk.
Ah oui, alors ça vous savez que j'ai en effet, oui, j'ai connu Julius, oui, c'était un grand choc. Alors je l'ai connu dans un club méditerranéen, paradoxalement, il passait les vacances là avec sa femme, c'était inattendu. J'étais avec De Bost, ça c'était aussi une chose qui m'a beaucoup aidé au début de mes activités. On faisait des concerts dans les clubs méditerranéens, c'était formidable, on passait 2 semaines, 3 semaines dans des très beaux endroits. On jouait 6 programmes, si on était là 3 semaines, on jouait pour les gens qui étaient en vacances, qui restaient assez longtemps, pour que ça soit varié. Et lui, c'était là pour des vacances, et je jouais avec De Bost, et on s'est connus. Il a même proposé, dans un des concerts, on a joué la fantaisie de Schubert ensemble. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, je dois dire. Puis après, on est resté un peu liés, j'allais l'écouter dans ses concerts. Il est mort jeune, hein. C'était un artiste exceptionnel. Mais je me tiens à souvenir, dans les faits, d'un concert un soir dans un club méditerranéen. On arrêtait l'orchestre, il n'y avait plus d'orchestre, il y avait la seule distraction, c'était le concert classique. Et les gens venaient ou ne venaient pas, ou ils allaient se balader ailleurs. Mais enfin bon, ils venaient, ils étaient étendus par terre sur des paillotes, sous le ciel étoilé, en Grèce, en Italie. La mer clapotait à 2 mètres, et c'était bon, des conditions pour eux agréables, même pour ceux qui... Et plusieurs fois, des gens sont venus après me voir en me disant, écoutez, on a vraiment apprécié, c'était un beau moment. Mais vous savez, pour nous, la musique classique, c'est un peu les messieurs en habit sur la scène, on a l'impression que c'est pas pour nous. Et d'un seul coup, on les atteignait de cette façon-là, c'était touchant, vraiment. Bon, dans ce domaine-là aussi, je peux dire que j'ai pas été assez militant, peut-être. J'ai pas assez recherché les occasions de ce genre, mais quand elles se sont présentées, j'en étais toujours heureux, oui.
Gérard Poulet, Michel Letièque, Christian Vivaldi dans un extrait de L'invitation au château de Francis Poulenc pour refermer ce 3e épisode des Grands Entretiens avec Christian Vivaldi. Réalisation, Olivier Guérin. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Valérie Lavalard. Attaché de production, Flora Sternadel. La suite de ce portrait, c'est demain à la même heure. Podcast et réécoute des Grands Entretiens sur francemusique.fr. Thank you.
à réécouter sur francemusique.fr.